12h37, on profite du passage, du court passage d'Antonine Iaccarini en studio pour lui jaser. Elle est sur le point de décoller à 13h, c'est ce qu'elle a mentionné. C'est Cancun, tu vas où?
Je m'en vais à Radio-Canada.
À Radio-Canada! Qu'est-ce qu'on va faire là?
Zone Info.
Ah oui?
Ah, Yannick, il se sent trompé, là, c'est quoi, là? J'ai senti un genre de...
Non, mais j'ai dit à Denis, là, tu dois quitter la place parce qu'il doit avoir un seul homme dans la place pendant qu'Antonine rentre. Ah. Et il a acquiescé. Fait que là, tu me dis que tu me partages avec Radio-Canada.
Yannick a pissé sur toi.
Avec Gérald Filion.
OK, je sais pas de quoi tu
parles. Mais c'est comme un chien qui fait son territoire. Moi, ça m'a donné cette image-là, mon Yannick.
Non, non, c'est...
Si tu ne la veux pas, tu ne vas pas là.
Dans ma meute, on fait pas ça aux femmes.
Merci.
Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Comment ça va?
Ça va bien.
On est content de te voir. Il y a de l'actualité bien en masse. Il fait soleil à l'extérieur. Ce qu'on fait, on travaille-tu ou on s'en va?
Sérieusement, c'est un complot, je pense. Le beau temps la semaine, puis la pluie la fin de semaine.
Oui, c'est... oui. En passant, lâcher la fille de TVA, là. Elle l'a juste échappé un peu. Puis là, ça dure. Puis là, je vois des caricatures, puis tout ça. Elle l'a échappé un peu. Ouais. Mais on a tous le droit à l'erreur, là.
Dans la vie, oui.
Oui. Ben toute la gang. En as-tu déjà fait, toi, des majeurs qui ont fait le tour du Québec au complet?
Le tour du Québec, non, mais des potentiels qui auraient pu, j'ai quelques idées en tête.
Ouais, moi, ça m'est arrivé, je vais le refaire intentionnellement, là, mais ça doit faire 6-7 ans, puis j'étais en train de lire le livre de Christine Brouillette. Ça s'appelait Montréal Noir, OK? Puis au lieu de dire, là, je parlais d'une nouvelle actualité, puis au lieu de dire Montréal Nord, j'ai dit, hey, les amis, ça se tire à Montréal Noir.
Oh non.
Et si, bois. Ça n'a pas été long que ça a été repris, là. Puis ça a été diffusé. Mais je lisais le livre de Christine Brouillette, puis c'était Montréal Noir.
Non, puis quand tu dis faut pas que je dise quelque chose, tu le dis, on dirait. Ouais, c'est exact. Comme imprimé dans ta tête.
Mais même là, j'avais même pas passé cette réflexion-là dans ma tête. C'est rare, j'en passe, soit dit en passant. Mais ça a sorti tout seul, puis je me suis fait castrer. Clock!
Écoute, sur les ondes d'une autre radio, l'autre fois, j'ai pris une blague vraiment au premier degré sur les médias sociaux.
Ouais.
Il y avait, je peux pas croire que tu es en train de répéter ça. Il y avait Arnaud Soli qui faisait une vidéo supposément avec le fils de Justin Trudeau. Puis c'était pas le vrai fils de Justin Trudeau. Mais moi, j'ai vu ça 30 secondes et j'ai parlé de ça en ondes.
T'as dit Arnaud Soli.
Je suis morte en dedans après. Puis là, l'animateur était comme, non, c'est pas le vrai fils de Justin Trudeau. Puis j'étais comme, moi, je vais y aller. Bye.
Ouais.
Je vais aller me cacher chez nous pour un mois. Au revoir.
C'est le danger de faire ça live.
Ben oui.
Quand tu es avec tes chums, il y a juste deux, trois de tes chums qui peuvent se foutre de ta gueule. Mais quand tu parles, je sais pas moi, à LCN la fin de semaine, puis tu parles de la météo, il y a plusieurs personnes qui peuvent te voir live. Puis après ça, c'est rediffusé. Fait que si quelqu'un l'enregistre, puis t'as dit niaiserie, c'est clair.
Mon ami Victor dit toujours, moi, j'ai une marge d'erreur de 3 %. Je pense qu'il faut qu'on s'applique ça à nous-mêmes aussi. Puis même, tu sais, je pense pas qu'on est à 3 %. Ouais. Là, avec votre niveau d'expérience, vous n'êtes pas à 3 %, mais c'est vrai que là.
Mais c'est de le reconnaître aussi. Nous autres, on est très à risque parce qu'il y a toujours ce qui est rapide, la spontanéité, de donner la nouvelle tout de suite. Là. Mais, et de plus en plus, pour avoir commencé il y a 10 ans, on avait vraiment plus de temps. J'avais le temps de sortir du studio, d'aller vérifier. J'avais un gap de 5 à 10 minutes.
Là, ça va vite.
Et là, c'est... illico.
Puis ce qu'elle a dit à LCL en fin de semaine, c'est que la raison pour laquelle il pleuvait la fin de semaine, c'est parce que les gens prenaient leur voiture la semaine.
C'est
Et elle voulait
bizarre.
Parler d'une étude qui est déjà parue, puis je me souviens d'avoir lu ça, mais ça n'avait aucun rapport, tu sais. Puis je l'écoute live, puis je me dis, mais non, tu peux pas dire ça comme ça, là, qu'il pleut la fin de semaine parce que la semaine, on prend nos voitures. Les gens, à la grandeur du
Le
Québec,
complot anticlimatique embarqué là-dessus. Mais cela dit, des fois, je remarque ça, étant donné, moi, je fais beaucoup de coaching en communication, puis des fois, les gens ont quelque chose dans leur tête, puis là, ils coupent des phrases.
Oui.
Puis là, il manque 3-4 phrases pour faire le lien entre deux idées, puis ça donne ça. Puis ça peut avoir des résultats vraiment tristes, mais bon, c'est ainsi.
Ève-Marie Lortine avait fait une pas pire, mais ça à patte de me rappeler ça. Elle avait dit, au lieu de dire le gars a été retrouvé dans le ravin...
Un enfant en plus. Elle était tombée dans un ravin.
Elle a dit vagin. Non,
mais elle avait été, là...
Ça avait été terrible.
Punie, là. C'était pas drôle, là.
Elle avait été punie.
Elle a fait le tour dans le coffre du char, là, médiatiquement.
Terriblement.
Puis par les patrons, puis c'était... Yannick, il y a quelques années, tu te fais raconter ça, là, c'était extrêmement strict. Sur la manière dont tu te présentes, ce dont tu as l'air à l'extérieur des ondes, la terminaison, l'hésitation, le mauvais mot, la qualité de français. Malheureusement, il y y a une recrudescence.
Ouais, c'est comme si on demandait aux gens d'être toujours parfaits, alors qu'en réalité, on ne l'est pas. On ne l'est pas avec nos enfants, on ne l'est pas avec nos conjoints, nos conjointes. Avec nos chums, on n'est pas parfait. Fait qu'à la télé, on s'attend à voir des gens qui sont vraiment parfaits. Là. Valérie Plante qui disait, au lieu de tennis, elle avait dit pénis.
Moi, j'avais trouvé ça, François.
J'avais trouvé ça cute. Là.
Avait dit, au décès de Kim Jong-il, avait dit Kim Jong-2.
Ouais.
Et elle avait perdu sa job. Ouais.
Je me souviens très bien.
Ah ouais, c'était sévère.
Ouais.
C'était vraiment sévère.
Bon, on va essayer de ne pas perdre notre job aujourd'hui.
Non, non. Ben, moi, j'essaye à tous les jours. Fonctionne pas.
Il te rembauche à chaque matin.
Ben oui. Fiasco, ça clique. Oui, je pense qu'on peut dire que c'est un fiasco. Ce matin, ce qui est sorti à la une avec Québécois, c'est un article de Nicolas Lachance. Excellent journaliste, soit dit en passant. 1879 contrats supplémentaires cachés par la SAAQ qui ont été découverts par la commission Galland. Antonine, où est l'UPAC?
Ben, l'UPAC peut faire des enquêtes, mais on ne le saura pas nécessairement.
Okay. J'espère qu'ils sont plus sur leurs maudits passeports vaccinaux qui avaient été falsifiés à l'époque. J'espère qu'ils travaillent vraiment dans l'entourage de ce monsieur-là qui est mentionné à tous les jours, plusieurs fois par jour, comme quoi il avait une grande influence puis que ses amis ont bénéficié de ses décisions. J'espère que l'UPAC est présente parce que visiblement, ce qui se passe là, c'est pas beau. Puis on va en avoir pour des années comme répercussions. Là.
On disait qu'il y avait des dépassements de coûts de 500 millions, mais on est en train de se rendre compte que c'était finalement la pointe de l'iceberg. Puis quand je disais ça ce matin, je me disais, c'est quoi l'histoire? T'sais, moi, je suis un peu formatée relations publiques. Puis en relations publiques, on se demande toujours, c'est quoi le fil narratif? C'est quoi l'histoire? Les journalistes aussi pensent beaucoup comme ça.
Moi, c'est à qui ça profite? À qui le crime profite?
Mais ça vient, ça va dedans. Là.
Ouais.
Toujours, toujours, avec un petit complot. Là,
c'est juste
fois,
qu'il y a plus d'enrobage dans...
Bon, cela dit, quand je regarde l'histoire de Saclic, là, c'est très croustillant. Hein? La commission Galland, hein, ceux qui pensaient que c'était pas utile, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a beaucoup de stock qui sort de ça.
C'est utile pour l'information, mais moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait des gens avec des chaînes aux pieds, là.
Ben, c'est ça.
On veut
va
que ça
vouloir...
soit utile, même
parce que
dans
ça, il n'y a jamais ça, on dirait.
Non, mais ben, c'est ça le problème. Puis il y en a qui se demandent si on n'est pas en train de dépenser trop d'argent, encore une fois, dans quelque chose qui, oui, nous ouvre les yeux sur bien des engrenages, mais à aucune conséquence.
Bien là, il est un peu tôt, par contre, parce qu'évidemment, ça va déboucher sur des recommandations. Il y a deux histoires là-dedans. Il y a celle de la corruption. Il y a celle, je dis corruption, mais c'est plus collusion, les copains-copains, on arrange les affaires pour que ça paraisse pas trop les dépassements de coûts, etc. Puis c'est important. Puis on se demande, quelques années après la commission Charbonneau, comment c'est possible qu'on se retrouve encore dans cette situation-là aussitôt. Il me semble, à un moment donné, il y a comme un choc qui se donne, puis pendant un bout de temps, le monde se check un peu, mais non, on dirait que non. Mais il y a toute l'histoire aussi de comment on gère nos contrats informatiques. Puis j'ai envie de dire, pas juste les contrats informatiques, nos infrastructures aussi, OK? Et honnêtement, plus vous grattez là-dedans, et plus vous allez être découragé. J'entendais tantôt, vous jasiez avec Denis, puis il disait, il apportait son cynisme habituel. Je m'obstine souvent avec lui par rapport à ça. Mais ça rend très cynique, OK, de fouiller là-dedans. Tu te rends compte que le gouvernement a de la difficulté même à définir son besoin. On ne comprend même pas comment définir le besoin quand on a une transition numérique à faire, par exemple. Donc, ça nous rend extrêmement vulnérables à des compagnies qui veulent profiter, mais aussi à des individus comme ce qu'on est en train d'apprendre présentement. Puis, c'est correct de s'occuper de la partie collusion puis de crooks là, qui profitent du système, mais il ne faudrait pas non plus perdre de vue que toute la question des appels d'offres, des contrats, de l'incompétence gouvernementale en matière d'informatique, mais de génie en général aussi. Là, parce qu'on pourrait parler d'infrastructures routières. Toutes les compagnies privées vont vous le dire, ils n'ont même plus envie de répondre aux appels d'offres. Parce
ils
n'ont
pas d'être étiquetés.
Ben, pas juste ça, c'est que maintenant, en plus, on dit ben maintenant, vous allez être responsable des dépassements de coûts, les entreprises. Mais ils disent oui, mais il y a des dépassements de coûts parce que vous n'êtes pas bon.
Exact.
Je
me suis fait raconter une histoire hier. C'est un de mes chums qui fait de l'excavation, pogne un contrat avec le gouvernement. C'était Hydro-Québec pour ne pas le nommer. Creuse une tranchée. Là, ça prend une inspectrice du gouvernement pour venir vérifier la tranchée. Puis eux autres, ben, faut que la tranchée soit tant de creux puis tant de large. Puis là, ben, la dame a dit, je vais être là demain matin. Fait que la tranchée est prête le lendemain matin. Les gars l'attendent. toujours pas là. Elle arrive à 15h l'après-midi, mais il y a eu une averse de midi jusqu'à 15h. Mm. Puis il y avait de l'eau dans la tranchée. Elle arrive avec en train de mesurer. Elle dit « Oui, mais là, ta tranchée est pas assez creuse. Il y a de l'eau dedans. » Il dit « Oui, mais si tu étais venu à l'heure que tu nous as demandé, tu aurais vu qu'elle était assez creuse. Puis nous, on aurait fait notre travail. » Ben là, elle dit « Je vais revenir demain. » Finalement, le lendemain, encore des averses. Fait que ça pouvait pas. Ça a pris 6 semaines de plus. Puis ils ont payé 45 000 $ de plus en temps pour les gars qui attendaient que l'eau s'enlève de la tranchée pour qu'ils puissent continuer à faire le travail.
C'est un grain de sable.
6 semaines.
Dans le Sahara des exemples qu'on pourrait vous sortir. Là.
Puis c'est un bon montant.
Oui, mais malheureusement, je suis obligée de dire, comme le gars qui est passé à la commission Galant, ça pour vrai, ça n'arrête pas à terre de tourner. Quand on dit que 100 millions de dépassements, ils trouvaient que ça n'arrêtait pas à la terre de tourner, imaginez un 45 000 $. Mais c'est comme ça. Tous les contrats, les appels d'offres, le niveau d'incompétence dans la machine, puis je dis pas que chaque fonctionnaire individuellement est incompétent, c'est pas ça que je dis là. Mais on n'est pas capable de comprendre où un projet va s'en aller. Donc, comment on peut bien le gérer à partir de là? Ce qui va arriver, c'est que, surtout avec ce qui se passe avec sa clique en ce moment, là, il va y avoir un traumatisme là, par rapport à ça. Vous autres, là, mettons, vous êtes ministre le même matin, là, puis là, vous dites, là, je regarde ce qui se passe là, avec sa clique. Là. Je pense que je vais demander à mon ministère qu'est-ce qu'on a de prévu, le côté transition numérique, contrat informatique.
Qu'est-ce qui s'en vient, oui.
La santé, là, entre autres. Là.
Puis ça pourrait être tentant de tirer à la plug, hein?
Aller chercher toujours les ressources externes aussi, ça me tanne. Des applications comme SaClick, ça existe ailleurs dans le monde. Là. C'est quelque chose, on aurait pu acheter l'application ailleurs dans le monde, la modifier pour nous au Québec, puis que ça fasse la job pareil. Pourquoi ça faut que ça vienne toujours de nous autres, de
on
A à Z?
On n'aura jamais l'expertise nécessaire pour tout faire en informatique. Au gouvernement, oubliez ça, parce que ce n'est pas attractif pour les meilleurs talents en informatique, parce que souvent, on travaille avec des plus vieilles technologies. Il y a beaucoup, beaucoup de compétition pour aller chercher les talents. Mais ça prend au moins le minimum de compétences pour être capable de bien faire les appels d'offres et de bien superviser les projets. Puis l'autre élément qui fait en sorte que ça chire tout le temps, ces projets-là, parce que là, ça clique, c'est tel que tel, mais il y en a eu d'autres, là, ça gire. On pourrait nommer au fédéral Phoenix.
Ça chire.
Phoenix, encore des rebounds de ça.
Ah oui, mais écoute. Puis, ils sont trop longs. C'est des projets qui sont étalés sur des années. Il y a des changements de gouvernement. Et quand tu finis par terminer ton projet, ben, ta technologie est déjà dépassée. Puis on les fait trop gros, les projets. Ça clique, là. Comment ils ont fait ça? Il fallait qu'en une semaine, ils transfèrent toutes les données de tous les services, de tout. C'est pas comme ça que les entreprises informatiques fonctionnent avec un client privé. Ouais. Jamais.
Il n'y avait aucun backup en passant.
Ça n'a aucun sens. Puis si vous parlez à des gens qui font ça dans des entreprises qui sont bien plus grosses que la SAC en passant, ils vont vous dire jamais on va fonctionner de cette
manière-là.
Mais
on le fait entre autres avec Patrick Mathieu régulièrement dans l'émission. Puis c'est une des affaires dont il parlait il y a 3 ans. Donc, au balbutiement de la présentation publique, mettons, parce que le travail avait quand même été pas mal
il
travaillé.
Il levait le flag,
puis il faisait publiquement, il faisait des articles, il allait avec ses contacts au gouvernement, il y en a certains qui lui donnaient crédibilité là-dedans, puis qui disaient « Hey, t'as raison, ça va être un grand fiasco », mais il l'écoutait pas, donc, puis il est pas seul.
Puis plus le projet avance, moins le levage de flag, ben ça va changer quelque chose, parce que là, t'es comme « Ouais, mais j'ai déjà dépensé 500 millions. »
Je comprends pas pourquoi ils veulent pas se remettre en question là-dessus. Il y a 10 ans, le Hackfest à Québec, il y avait des gens du gouvernement, des fonctionnaires qui allaient participer à ça, où ils allaient voir, puis tu te mettais à parler avec eux, puis dis « On travaille en silo. » Chacun des ministères travaille en silo. Il y a même pas de raccord entre notre job.
Puis on a créé un ministère qui est supposé de superviser la transition numérique. Puis on se souviendra que Erika disait « Moi, je suis pas au courant, c'est pas mon problème. » Donc, on a beaucoup de problèmes là, avec ça. Là, c'est loin d'être réglé. Fait que, tout ça pour dire que oui, la collusion, oui, les gens mal intentionnés, mais l'argent qu'on jette dans le feu à chaque année, c'est pas, à mon avis, puis je suis pas l'UPAC et je suis pas l'AMF, mais à mon avis, c'est beaucoup plus au côté de la compétence et de l'incapacité de la machine à bien construire les projets en collaboration avec le privé.
Ouais. Les gros égos aussi à l'interne, là, visiblement, il y en a qui emmènent très, très large. Le conseil d'administration, c'est un conseil qui était visiblement incompétent, qui comprenait absolument rien de ce qu'on était en train de faire comme projet. Puis ceux qui faisaient des audits, donc les vérificateurs faisaient les audits, montaient l'information en haut, puis
ça finissait là.
Lettre morte.
Oui, c'est ça. Puis ça, c'est le bout qu'on comprend moins. Moi, j'ai toujours pensé que c'était pas vraiment une histoire qui tournait autour du politique. Moi, vraiment, mon hypothèse, là, c'est qu'à un moment donné, les projets sont trop avancés. C'est comme si je venais rénover votre cuisine, elle est à moitié faite, il y a des tuyaux qui mènent nulle part, il n'y a pas de céramique sur le plancher. Puis là, je vous dis, ouais, finalement, ça va coûter plus cher. Qu'est-ce que vous allez faire? Non, on arrête tout? Tu recommences à zéro avec un autre? Tu sais, c'est ça le problème. C'est qu'il faudrait faire les projets par étapes ou tu as l'occasion à un moment donné de retirer tes billes ou de dire, OK, stop. T'sais, est-ce qu'on continue dans cette voie-là? Ou, t'sais, il faut faire des étapes pour y arriver. Puis j'ai peur un peu que les affaires de collusion viennent tellement, parce que t'sais, c'est croustillant, ça brille là, comme nouvelle, mais je pense que l'UPAC devrait vraiment enquêter là-dessus. Mais j'espère qu'il va y avoir beaucoup de recommandations aussi sur la manière dont on fait nos contrats puis nos appels d'offres. Puis c'est sûr qu'il va y avoir une recommandation d'avoir plus de compétences. Ça fait des années, de toute façon, que tout le monde le dit. Mais comment on va faire pour y arriver? Parce que c'est pas attractif pour les talents d'informatique.
Non, puis tu sais, tu me fais écouter un film où il y a une entreprise qui travaille avec le gouvernement pour fabriquer un appel d'offres. Ensuite, l'appel d'offres est envoyé. Puis c'est cette dite entreprise-là qui a travaillé dessus qui remporte la soumission par la suite.
Ouais, non, ça marche pas. Par contre, moi, ça fait... Là, je radote mes vieilles affaires, là, je radote tout le temps cette affaire-là, mais moi, je pense qu'on devrait avoir un comité composé de gens du secteur privé informatique et du secteur académique, donc des universitaires qui ne travaillent pas là, pour des entreprises
qui
font du profit.
À la fine pointe, puis,
oui, okay. Puis qui révisent les appels d'offres en amont. Au lieu d'avoir un VG qui, 3 ans plus tard, dit « Ben voyons donc, ça n'a pas de maudit bon sens, cette affaire-là », d'avoir une révision par des gens qui, évidemment, s'ils bident sur l'appel d'offres, ben, ils se retirent. Là.
Mais est-ce que ça ferait un choc de coq, là, un combat de coq? Parce que ça, on l'a vu aussi dans ces projets-là.
Mais on s'en fout que ça fasse un combat de coq.
Je suis d'accord avec toi.
Mais ça devrait être
mais
public.
Ça peut arriver.
Et ça devrait être public.
Il faut que le contribuable soit gagnant. Dernier sujet, parce qu'il reste encore quelques minutes, Antonine. Le troisième lien, il y a eu un sondage qui est paru dans Le Soleil. C'est un sondage qui a touché à peu près quoi, 929 personnes, donc presque 1000. 70% des citoyens dans la grande région de Québec qui appuient encore l'idée d'un troisième lien à Québec. Pour ce qui est du tramway, ça tourne aux alentours de 40%. Hier, le maire Marchand met encore le singe sur le dos de la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, en disant qu'elle a de gros défis pour faire passer ce projet-là, alors que toute la population est derrière. C'est une situation qui est très particulière. Puis, il y avait René Lévesque qui disait « Méfiez-vous des gens qui prétendent aimer le peuple, mais qui détestent tout ce que le peuple aime. » Cette citation-là, je vais m'en souvenir toute ma vie, mais à chaque fois que j'entends parler de ces projets-là, qui sont désirés par la population, mais méprisés par les politiciens, il y a toujours René Lévesque qui me vient en tête. Ils vont faire quoi avec le troisième lien?
Ouais. En fait, c'est qu'on n'a jamais défini l'acceptabilité ou le fait qu'un projet passe. Est-ce que c'est juste les gens de Québec ou tout le Québec, tout à coup, a droit de regard sur nos projets de transport dans notre région? Moi, j'ai toujours pensé que c'était aux gens de Québec de décider.
Oui.
Je suis pour le concept d'un troisième lien et je suis tannée que les gens nous mettent sur nos épaules tout à coup l'entièreté de la crise climatique. Puis
oui.
Que je trouve ça d'une grande hypocrisie. C'est pas vrai que de rajouter un pont ou un tunnel à Québec, là, c'est d'être contre l'environnement. C'est complètement faux. Puis on peut être pour le tramway et pour le troisième lien. Cela étant dit, je décroche un peu là, du troisième lien. Puis pas parce que j'ai changé d'idée sur le fond des choses. Moi, je pense qu'on doit vraiment réfléchir à la mobilité à Québec et que tout ne sera pas réglé par un tramway. Mais je n'ai jamais vu de projet qui, clairement, était faisable. Puis je trouve qu'il y a eu énormément de politique aussi sur la question du troisième lien. C'est rendu tellement polarisé que c'est comme s'il faut être ta carte de membre. Soit tu es pour le tramway, soit tu es pour le troisième lien, mais tu ne peux pas être nécessairement pour les deux. Il n'y en a pas de projet qui nous a été présenté qui se pouvait
ça
en termes financiers.
C'est ce qu'elle a mentionné en termes financiers, mais c'est ce qui s'en vient. Mais moi, je me dis, si ça se fait ailleurs, des beaux grands ponts ou des beaux grands tunnels, on doit être capable de le faire ici.
Mais tout est possible à un moment donné, mais ça dépend ce que tu es prêt à accepter.
Si c'est pour faire une grosse catastrophe comme ce qu'on est en train de voir avec le dossier ça clique, on peut-tu faire des appels d'offres qui feraient en sorte que toutes les entreprises du monde entier pourraient bider sur ce projet-là? Parce que ça a déjà été mentionné.
Oui, c'était l'intention.
Oui.
Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a de la politique là-dedans. Puis qu'on a l'impression que Mme Guilbeault, elle veut garder le projet vivant puis montrer que ça avance. Là, on est à l'étape des études. Puis, réalistement, il n'y aura pas une pelletée de terre avant la prochaine élection. Là. On est-tu d'accord là-dessus?
Ouais. Oui. C'est impossible.
C'est impossible.
C'est impossible.
Ah, Yannick. Ah, je pensais que t'allais être... Je me disais, on va gager quelque chose.
Je suis d'accord, mais...
Deux comme d'habitude.
Je pense que la CAQ, pour se sauver les fesses, parce que la Coalition Avenir Québec on agisse de manière très hypocrite, là. Pour se sauver les fesses, ils vont s'organiser pour faire une pelletée de terre quelques semaines avant le début des élections.
Ah, OK. C'est ta prédiction.
C'est une prédiction. Mais ça, c'est parce que je déteste tous les politiciens.
Oui, c'est ça.
Fait qu'il y a toujours une mauvaise intention.
Exact. Dans on va aller le faire dans politique. Ma cour. Ça comptera pas, là.
Mais moi, je pense pas qu'il va y avoir une pelletée de terre avant la prochaine campagne électorale. Puis, tu sais, pour jaser avec
Antonine.
Pas mal...
François Legault annonce son départ. Hein, savez-vous quoi? Je regarde ça, là. Je serais bien à la maison. Finalement, elle va m'accepter. Il va y avoir une course à la chefferie pour la Coalition Avenir Québec. Puis à Québec, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on va faire une première pelletée de terre dans quelques semaines. Fais la pelletée de terre. Tout le monde va pardonner à la CAQ. Tout le monde
un
va
voyage dans
la
le
CAQ.
Futur.
Ah oui, c'est exactement ça qui va arriver. Non. On change d'idée comme on change de culotte au Québec.
Ça, c'est vrai. Puis les projets, les grands projets, c'est incroyable de voir à quel point ils n'avancent pas. Et justement, notamment parce qu'ils sont mal alignés dès le départ. Puis là, cette fois-ci, moi, je suis encore prête à appuyer un projet de troisième lien. Absolument. Oui. Je suis absolument pas contre, mais j'ai hâte qu'on me présente quelque chose qui se peut, parce que c'est pas vrai qu'un pont par-dessus l'île d'Orléans, ça va fonctionner. Puis un tunnel à 10 milliards qui doit bien être rendu à 20 milliards maintenant, parce que, je sais pas, on dirait d'année en année, ça fait juste augmenter. À côté des autres ponts, on veut pas ça. Fait que finalement, présentez-nous quelque chose qui se peut. Puis moi, je vais être la première à crier go.
Antonine, même si tu t'en vas chez l'ennemi, je te souhaite de passer
ben, voyons,
super de bel après-midi.
Gérald. On l'aime, Gérald Pignan.
C'est le seul que j'aime là-bas.
Bon, bravo.
Fait qu'il est pas si pire.
Il n'est pas si pire. Franchement, après, c'était déjà une
solution. Non, mais Gérald est professionnel. Je l'aime bien. Puis d'ailleurs, il y avait eu des problèmes avec François Legault dans le temps. Là. Puis quand François Legault, il a fait part de son mécontentement parce que Gérald avait eu des commentaires qui étaient...
différents de ceux de M. Legault.
Non, difficiles à l'égard de la Coalition du Québec. Et Gérard a retenu ses culottes. Puis moi, Gérard a retenu mon respect.
Ça. Bravo.
Exactement. Merci, Antonine. Salut.